Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés du ressuscité, le dimanche dernier, l'Église nous donnait de célébrer deux grands événements du christianisme, à savoir la descente de l'Esprit-Saint en chaque disciple et la naissance du nouveau peuple de Dieu, l'Église. La finalité de la venue de l'Esprit était de faire de nous des témoins pour le Christ. Cette mission, qui incombe à tous et à chacun des disciples, trouve son fondement dans cette finale de l'Évangile de ce jour. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai prescrits. Je profite de cette parole de Christ, bien sûr, pour dire merci à tous les parents qui répondent à cet appel du Christ en faisant baptiser leurs enfants dès l'enfance et surtout en les accompagnant sur le chemin de la foi. Merci à vous de faire grandir cette famille de Dieu. Cette recommandation du Christ nous introduit, frères et sœurs, dans le mystère que nous sommes invités à célébrer en ce jour. Mystère d'un Dieu qui est à la fois Père, Fils et Esprit-Saint, un seul Dieu en trois personnes. Cela paraît difficile, d'expliquer qu'un Dieu soit trois en même temps. Et je me rappelle cette petite histoire que saint Augustin lui-même raconte, sa rencontre entre lui et ce petit garçon au bord de la plage. Ce garçon qui voudrait, ou du moins qui avait creusé un trou, et à l'aide d'une cuillère, cherchait à remplir ce trou de toute la mer. C'est-à-dire, il puisait l'eau de la mer pour mettre dans le trou. Et saint Augustin lui a dit, « Mais tu n'y arriveras pas. » Il dit, « Oui, je sais que je n'y arriverai pas, comme je n'arrive pas à comprendre votre affaire de un Dieu en trois personnes. » Ce mystère de la Trinité est l'un des trois grands mystères de la foi chrétienne, avec ceux de l'incarnation et de la rédemption. Il englobe les deux autres et nous ne pouvons le comprendre tant soit peu qu'en nous appuyant sur ces deux. Car s'il n'y avait pas eu l'incarnation, nous n'aurions pas connu le véritable visage de ce Dieu qui nous aime, qui agit à tout instant dans nos vies et qui continuellement veut notre rédemption. Pour comprendre ce mystère de la Trinité, ce mot qui n'existe nulle part dans les Saintes Écritures, il nous faut scruter la Bible dans son ensemble. Dès le livre de la Genèse, ce Dieu trinitaire apparaît comme un être, mystérieux certes, mais un être qui n'exclut pas une certaine pluralité en lui, comme le révèle bon nombre de théologiens à travers mots et expressions. Et je voudrais m'arrêter sur quelques-uns. Par exemple, le mot « Elohim », très souvent attribué ou employé pour Dieu, qui est un pluriel à cause de sa finale « Him ». Son singulier serait « Elohi ». Le plus souvent, ce mot est utilisé dans les cultures sémitiques pour désigner les dieux dans leur ensemble. Il y a également l'expression, dans le livre de la Genèse toujours, « Faisons l'homme à notre image », qui exprime l'existence d'autres personnes avec le Créateur, des personnes qui participent à cette création. Ensuite, Nous avons la théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu lui-même aux chaînes de Mambré, où Abraham voit trois personnes au lieu d'une, au lieu de Dieu lui seul. Enfin, nous avons la personnification de la sagesse attribuée à Dieu, de la parole attribuée au Fils et du souffle attribué à l'Esprit Saint. C'est cette personnification qui est faite par les auteurs sacrés eux-mêmes. Mais c'est dans le Nouveau Testament que nous trouvons l'essentiel de la révélation d'un Dieu qui est Trinité. Les trois personnes y sont clairement nommées, y agissent et s'y manifestent à la fois dans leur distinction et dans leur unité. La première révélation de la Trinité fut une révélation privée au profit de la Vierge Marie lors de l'Annonciation. L'ange Gabriel lui révéla « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On a bien là le Père dans les cieux, l'Esprit Saint descendant du ciel pour la féconder et le Fils qui prendra place dans le sein de la Vierge. Le baptême du Christ nous donne une autre révélation de la Trinité. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, nous dit-il. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Cette révélation de la divinité du Fils sera confirmé, frères et sœurs, lors de la transfiguration. Le Nouveau Testament, donc, est rempli de formules qui affirment ou supposent la parfaite divinité du Fils, d'une part, et qui, d'autre part, associe pleinement l'Esprit à la vie, à l'intimité et à l'action du Père et du Fils. Il y a donc en Dieu trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui nous sont révélés par l'incarnation du Fils et par l'envoi du Saint-Esprit. Trois personnes qui possèdent l'unique nature divine. Et c'est cette divinité entière et indivisible qui est en chacune des personnes, dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. Aussi existe-t-il entre ces trois personnes divines une distinction réelle qui se fonde uniquement sur leur relation mutuelle qu'elles entretiennent entre elles. Le Père tient de lui-même la nature divine. Le Fils procède du Père par génération éternelle. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ou encore du Père par le Fils, comme d'un seul et même principe, en tant qu'ils sont un seul et même Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se compénètrent mutuellement dans la plus parfaite union d'amour et agissent par une seule et même opération sur le monde. Ainsi, s'il est difficile d'expliquer, de démontrer pleinement ce mystère, nous devons remarquer qu'il se déploie dans toute l'économie du salut éternel. Mystère d'un Dieu, mystère d'un Dieu en trois personnes. Cela me rappelle, pas une histoire, mais un fait que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, quand nous étions encore enfants. À l'occasion de la confirmation, l'évêque qui était là posait cette question. C'était le jour de la Trinité. Il demandait aux enfants de lui expliquer la Trinité, un Dieu en trois personnes. Tous, ou pratiquement, se sont dit, « Mon Seigneur, c'est difficile. » Difficile parce que pour nous, un plus un plus un égale combien ? Ça fait combien ? Qui a dit ça fait 1 ? Celui qui a dit ça fait 1, je vais demander à son professeur de mathématiques de lui donner 0. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. C'est normal, ça fait 3. Mais il y a un enfant qui s'est levé, qui a dit, « Mon Seigneur, il ne s'agit pas de faire une addition, mais de faire une multiplication. 1 multiplié par 1 multiplié par 1, ça donne combien ?» Voici ce que l'enfant avait dit. Et c'est cela l'Esprit Saint, ou du moins la Sainte Trinité. Frères et sœurs, l'Église ne célèbre pas donc trois dieux. Le christianisme En particulier, le catholicisme n'est pas une religion polythéiste, comme pourraient le penser et l'affirmer certains détracteurs et adversaires de l'Église, nous entraînant souvent à faire des amalgames et confusions dans nos pensées. Notre Église est bien une Église monothéiste, avec un seul et unique Dieu, dont l'expression se déploie dans le temps et l'espace sous trois formes. En dehors de lui, il n'existe pas d'autre Dieu, comme nous le fait savoir Moïse dans la première lecture. En célébrant la Trinité Sainte, l'Église nous invite à deux choses essentielles que vivent ces personnes en un Dieu, à savoir l'unité et l'amour dans la différence. Car malgré cette différence, le Père qui n'est pas le Fils qui n'est pas l'Esprit Saint et l'Esprit qui n'est ni le Père ni le Fils, ces trois personnes sont tellement unies qu'il nous est impossible de faire une distinction réelle dans leur action. Car même si nous attribuons la création au Père, la rédemption au Fils, la sanctification à l'Esprit, c'est le seul et même Dieu qui agit en tout et partout. Ce qui fait ou ce qui est fait par le Père est accompli en même temps et par le Fils et par l'Esprit. Ce que le Christ lui-même révélera en ces mots, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. » Aussi remarquons que cette unité n'aurait été véridique s'il n'y avait pas en eux l'amour. Tel doit être notre état. Car par la grâce baptismale qui fait de nous les membres d'une même famille, avec un seul et unique Père, Abba, nous sommes invités à vivre cette même unité trinitaire et familiale à travers notre solidarité et notre soutien les uns aux autres, dans leur joie comme dans leurs difficultés, pour manifester au monde l'amour de Dieu pour nous et en nous. L'exemple nous est donné par la Vierge Marie, qui en ce jour, 31 mai, en la fête de la Visitation, fait fi de son état de grossesse à elle, se rend chez sa cousine Élisabeth, elle-même à terme, pour se mettre à son service. Par cet acte, Marie matérialisait d'avance ce que le Christ dira plus tard, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Acte d'amour, mais aussi acte maternel, que pose chaque femme, chaque mère vis-à-vis de ses enfants, de son époux. Et je voudrais, avec tous les enfants ici, avec tous les époux, demander pardon à toutes les mères pour nos manques de considération, nos manques de respect, nos manques d'amour, pour toutes nos violences, aussi bien physiques que spirituelles. Demander pardon, mais aussi demander pardon à toutes ces dames qui aujourd'hui encore supplient le Seigneur d'avoir un enfant et qui se découragent. Soyez fortes, le Seigneur répondra en son temps. Je voudrais également dire merci à toutes ces femmes pour tous les sacrifices consentis pour notre bien-être, mais surtout et avec tous les enfants et tous les hommes, vous acclamez. Acclamez toutes les mères du monde entier, et spécialement celles qui sont là, celles de notre paroisse. Ensemble, nous allons acclamer les femmes, les garçons et les enfants. Acclamez bien fort et avec joie pour leur dire merci. Merci à toutes ces mères en acte, merci à toutes ces mères en puissance, merci à toutes ces mères spirituelles ou génitrices. Merci pour la vie reçue, la vie transmise, la vie entretenue. Pour finir, frères et sœurs, sachons et retenons que la probabilité que le monde nous reconnaisse, frères et sœurs de Jésus, le Frère universel, avec un même et unique Père, ne serait que minime, voire inexistante, s'il n'y a pas en nous cet amour pour l'autre moi, et le désir d'une union vraie au vis-à-vis. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Telle est la prière du Christ pour sa famille qu'est l'Église. Ainsi, prions que l'Esprit Saint, don de Dieu de la part du Fils éternel, nous éclaire de sa lumière pour que l'expression de notre amour nous conduise à l'unité des cœurs, malgré nos différences et divergences, pour l'édification d'un peuple de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Bonne fête de la Trinité, bonne fête de la Visitation, bonne fête à toutes les mères par la Vierge Marie que nous prions et saluons pour vous.